là, on va parler de cet état des lieux du numérique dans les théâtres avec Marion Denisot et Christine Petre. Parler un peu de ce panorama qu'on cherche à établir, panorama qu'on a commencé à faire de manière un petit peu, on va plus empirique et plus anecdotique en rencontrant au fur et à mesure des gens et en identifiant des projets innovants, et qu'on va faire de manière beaucoup plus systématique à travers l'état des lieux qu'on mènera dans les mois qui viennent jusqu'à l'été prochain. Je vais donc laisser la parole. C'est qui prend la parole ?
On va se compléter, donc. En plus, tu vas parler aussi. Pour vous exposer le principe, l'idée c'est que donc Anne, pour faire court, tu préciseras, Anne nous a demandé de réfléchir aux moyens de participer à un état des lieux sur le numérique dans les théâtres. Je vais commencer par les présenter Marion, qui est juste à côté de moi. Donc Marion Denisot, qui est en études théâtrales, maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'université de Rennes 2, avec son email donc si besoin. Et de nouveau moi, donc en comportement du consommateur. Et là, en fait, l'idée c'est de mobiliser mes compétences en tout ce qui est études de public. Et donc l'idée c'est de nous répondons en fait à une demande de faire un état des lieux du numérique dans les théâtres, sachant que les enjeux sont les suivants. Anne va pouvoir compléter, mais les enjeux c'est d'aller vers un observatoire. Aujourd'hui, on a peu de choses. On a peu de choses au niveau global qui a été fait sur le numérique dans les établissements de spectacle vivant. Et donc l'ambition, c'est donc on va vous présenter les enjeux, expliquer en quoi on souhaite aller vers un observatoire, c'est-à-dire pas une étude one shot qui ne serait plus reproduite, mais un observatoire, quelque chose qui pourrait être reconduit de manière régulière. On va vous présenter les principales thématiques de l'enquête qui ont été testées, la composition de l'échantillon avec les difficultés que l'on rencontre encore aujourd'hui, et ensuite vous présenter la temporalité de l'étude, sachant que le point de départ, on va dire que c'est aujourd'hui. Et le point final et le premier résultat, ce sera en juillet. Alors, sur l'enjeu d'un état des lieux, donc je vais laisser Anne développer, mais l'idée, c'est partant de l'idée que le numérique, c'est un peu un fait social total, c'est-à-dire qu'il informe sur l'évolution de la société. Il permet aussi, à travers l'étude du numérique, on permet de retrouver des différences dans les usages, à la fois de la part des établissements, mais aussi de la part des publics. Et c'est surtout aussi un objet, un moyen, en tout cas, qui va modifier beaucoup les pratiques professionnelles, votre quotidien. Et donc là, Anne va peut-être expliquer pourquoi, comment elle a souhaité qu'on participe.
En fait, on s'est posé la question en tant que professionnel sur le terrain de l'isolement face à toutes ces questions de l'impact du numérique sur nos métiers, qui a commencé grosso modo dans beaucoup de lieux sur quel impact en termes de communication, de médiation, pas forcément quel impact en termes d'organisation globale, c'est une question qui est plutôt plus venue après. Donc comment on pouvait intégrer ces questions ? Et les lieux expérimentent des choses. Souvent, ça va venir de quelqu'un qui a une affinité avec la question du numérique, qui va tester un peu des choses dans un théâtre. Ça vient rarement d'une décision de la direction, d'une vision stratégique de l'impact du numérique sur les lieux. Il y en a quelques-uns. Ça commence un peu plus. Mais en tout cas, les dernières années, c'était vraiment plutôt chargé de com qui a des affinités ou un webmaster en interne qui va pouvoir développer des choses. Donc nous, on a eu envie d'observer comment le numérique entrait dans les structures et de créer du lien entre les structures pour pouvoir avancer ensemble. C'était l'objectif du TMN Lab à la base. Donc c'est pour ça qu'on a fondé une communauté de professionnels et qu'on crée des rencontres. Parce qu'en fait, on se rencontre assez peu en tant que professionnels dans nos structures. On est assez isolés dans nos pratiques. Et là, donc, on essaie de faire des rencontres qui sont nationales. On peut vraiment croiser des gens différents. Donc, avec ces rencontres, ça a pu permettre de confirmer des intuitions sur ce qui se développait, d'observer vraiment à quel point il y avait une redondance dans ce qui était expérimenté. La redondance, ça fait qu'on fait un peu tous les mêmes erreurs, mais qu'on ne les partage pas et donc qu'on n'arrive pas à passer la marche suivante. Mais qu'il y avait aussi des choses... Alors, on parle toujours du retard. Enfin, on parle beaucoup. Moi, j'en parle plus, mais je le réintroduis. Du retard des théâtres dans la question numérique par rapport à d'autres secteurs culturels, c'est pas vraiment un retard. C'est plutôt une énorme opportunité pour moi. Et une histoire qui n'est pas la même que celle des musées, qui n'est pas la même que celle de la musique. On est vraiment à d'autres secteurs. Mais beaucoup d'opportunités dans le secteur du théâtre. Et donc, on a voulu rassembler ces gens, on l'a fait à travers des événements, mais on a très vite senti qu'on allait avoir besoin, si on voulait orienter de manière plus durable un développement de la question numérique dans les lieux, d'avoir une vision vraiment précise de ce qui se passe en France. D'où cette étape de faire un état des lieux préliminaire, parce que si on n'a pas cet état des lieux aujourd'hui, on aura du mal à mesurer comment les choses vont avancer et on aura du mal à orienter des politiques. Alors que ce soit nous, à notre échelle de professionnels, la manière des thématiques qu'on va aborder, les choses qu'on va mettre en place, concrètes, avec les professionnels qui nous entourent, mais aussi d'un point de vue plus politique, justement, vu qu'on est en lien avec le ministère de la Culture sur ce sujet, comment aider les théâtres à entrer dans cette révolution numérique qui est quand même une révolution de société à plein d'égards, qui pose plein de questions, qui n'est pas le graal du rajeunissement des publics qu'on est venu nous demander, hein, c'était les premières choses qu'on abordait, mais qui pose plein de questions sur les nouvelles formes de collaboration au sein des structures, d'interaction sur un territoire, entre des structures, de médiation, etc. D'où tous ces enjeux et cet état des lieux qu'on mène ensemble.
Ouais, donc rapidement, en fait, quand on a été contacté par Anne et TMN Lab, en fait, la question, c'était au départ de faire effectivement cette étude en se demandant qu'est-ce qu'on doit mesurer, qu'est-ce qu'il faut mesurer et pourquoi, avec quel, pour savoir quelle est la situation aujourd'hui, certes, mais dans quel objectif pour le long terme, parce qu'en fait, l'objectif, ce serait de fournir des éléments descriptif, mesuré, dire il y a tant d'établissements qui sont équipés de ceci, qui connaissent tel et tel, qui utilisent tel et tel outil, qui ont telle pratique, mais en se disant vraiment qu'il faut mettre une année zéro. Alors effectivement, on n'est pas au démarrage de l'Internet, on n'est pas au démarrage du Web 2 collaboratif, mais voilà, c'est aujourd'hui, ce sera janvier 2016, c'est le point de départ. Essayer de mettre un point zéro. Alors c'est sûr que des établissements sont en avance, ont beaucoup fait de choses, mais c'est aussi peut-être parce qu'ils ont des appuis à la fois financiers, politiques, et puis des compétences en interne qui les ont mobilisés. Mais en tout cas, quid de la situation pour l'ensemble, entre guillemets, essayer d'être vers l'ensemble des établissements de spectacle vivant en France pour pouvoir se comparer avec l'international, pour pouvoir voir les évolutions et pour essayer aussi de mettre ça en perspective avec des changements en se disant dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce qu'on pourra se retourner sur le passé et voir comment étaient équipés les établissements de spectacle vivant par rapport à l'équipement, par exemple, des citoyens, par rapport à des fractures numériques, etc. Comment ça s'est passé ? Donc l'idée, c'est vraiment de concevoir cette étude, pas de manière ponctuelle pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est pour essayer d'avoir un baromètre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Comme ça, dans 5 ans, on puisse remettre en place cette étude, voir comment les choses évoluent, comment tel et tel établissement arrive à négocier des aides pour être équipés, etc. Donc c'est vraiment dans cette dynamique d'être un observatoire objectivant de ce qu'il y a, des pratiques, des équipements dans les différents établissements.
Je rajoute juste, déjà, bonjour à tous, je rajoute juste que sur cette idée d'observatoire, en fait, c'est vrai qu'on est parti aussi de cette idée de pouvoir faire ponctuellement une mise à jour des données, comme on peut avoir aujourd'hui, hein, depuis 1973, l'enquête, hein, menée par le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles, qui effectivement permet d'avoir des données et donc des points de comparaison sur une période assez longue, même si, bien évidemment, en fonction des évolutions sociales, en fonction des évolutions économiques, hein, des pratiques, hein, de société, le cadre de l'enquête est modifiable, évolue. Il n'empêche qu'on retrouve des grandes catégories et donc qui permettent toujours aujourd'hui de faire des comparaisons sur des pratiques et sur des récurrences ou au contraire des changements significatifs en fonction des mutations sociales. Voilà.
Alors, la construction des thématiques de l'enquête, alors il faut savoir qu'il y a eu de nombreux allers-retours et qu'on qu'on termine. En tout cas, donc, c'est sur la base d'échanges avec des experts du spectacle vivant, des gens qui connaissent bien, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec notre ignorance ou nos a priori, mais que ça se fasse bien en concertation. Et avec cette idée qu'il faudra que ça puisse être comparé. C'est-à-dire que si aujourd'hui on parle de Rodrigue, il faudra que s'il n'existe plus dans 15 ans, on puisse parler d'un autre. Donc il y a des exemples qui sont donnés, mais en restant le plus général possible. Et en définitive, il y a 5 thématiques, 5 grands thèmes. Donc c'est l'organisation et le numérique, donc c'est la dimension un peu plus équipement, on va voir
ça. Ce que Christine n'a peut-être pas précisé, pour que ça soit clair, c'est qu'en fait, ce sont les thématiques qu'on retrouve dans le questionnaire qui a été justement élaboré dans ce va-et-vient avec les professionnels, et qui est également un questionnaire qui a été, qui est en cours, on va dire, de
finalisation
et donc aussi de test pour voir la pertinence de cette organisation. Et donc voilà les différentes thématiques que nous avons proposé.
Sachant qu'il n'y a jamais aucune bonne option. Au départ, on s'était dit, si on commence par l'équipement, ça va passer pour un questionnaire vraiment pas intéressant, avec combien de postes, etc. Mais malheureusement, il faut bien y passer. Est-ce que commence d'abord par la communication ? Mais si ça passe d'abord par la communication, ça va être renvoyé à celui qui est communicant dans l'entreprise et puis dans l'organisation. Et puis, plus personne, il ne pourra pas répondre à d'autres questions. En fait, là, il faut savoir que ça implique l'ensemble de l'organisation. Et ça sollicitera une mise en commun de chacun pour pouvoir travailler, enfin pour pouvoir y répondre le plus exhaustivement possible. Donc c'est l'organisation numérique, il y a l'idée d'équipement, il y a les services numériques proposés, donc à la fois vis-à-vis des équipes et vis-à-vis des publics. Il y a l'idée d'une évaluation, alors évaluation dans l'établissement, on estime si c'est présent, pas présent, est-ce que ça a un impact, comment ça évolue. Il y a l'idée, la quatrième idée, quand même, le numérique et l'artistique, même si ce n'est pas au cœur de la réflexion, c'est qu'on ne peut pas exclure cette dimension. Et après, comme tout questionnaire, à la fin, il y a des descriptions de la structure, du profil, puisqu'il y aura une démarche qui se veut déontologique, comme d'habitude, c'est-à-dire que si l'envoi de l'email ne sera pas anonyme, en revanche, le retour nous viendra en disant que ça vient d'une scène nationale qui a tant de salariés, de postes, etc. On restera dans une démarche où on ne pourra pas dire « Ah, c'est un tel ou un tel pour pouvoir travailler de manière plus précise. »
Juste, je voulais rajouter sur le... je ne sais pas si tu...
Il y a les détails après.
Il y a les détails, remets-le.
Alors, voilà les détails, l'organisation numérique... Je te laisse lire.
Ouais, c'est un petit peu plus loin. Sur le rapport, effectivement, avec l'artistique, ce n'est pas un questionnaire, effectivement, qui s'intéresse d'un point de vue artistique à l'apport du numérique sur la scène. Néanmoins, il y aura quelques questions sur cet enjeu, parce que c'est aussi une hypothèse à tester, de savoir s'il y a une connexion entre le type de spectacle qui est accueilli et le mode de fonctionnement de l'établissement, parce qu'on a peut-être des représentations en ce domaine un petit peu erronées. Donc la question qu'on s'est posée, c'est de vérifier s'il y a justement ce lien dans finalement cette transition numérique.
Donc en fait là il y a le détail des thèmes qui sont évoqués, sachant que l'idée ça va être après de faire des statistiques, des tests de relations. Et donc par exemple effectivement si on accueille de l'artistique très avec des dimensions numériques, musique actuelle, etc. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux ? Alors peut-être que oui, peut-être que non. Et peut-être que oui, non, vous, mais peut-être pas les autres. Donc, de manière à redresser un peu le point par rapport à ça. Donc, voilà toutes les thématiques. Ce qui fait que, comme vous allez le constater quand vous le recevrez, il est un peu long. Autant dire tout de suite, ça, c'est la technique de la porte dans la figure. C'est-à-dire qu'il va vous durer à peu près 2 heures de travail. Mais non, c'est pas vrai. Seulement 25 minutes, 20, 25 minutes.
25 à 45 minutes, selon les tests faits auprès de professionnels. Voilà.
C'est vrai que là aussi, la procédure que nous avons choisie est d'abord de faire un envoi avec une version PDF en fait, hein, de ces questionnaires pour encourager les structures à prendre ce questionnaire comme une interrogation qui concerne l'ensemble de la structure. Et donc que ce soit peut-être aussi le moyen pour aborder cette problématique en réunion d'équipe, puisqu'il nous semblait qu'une seule personne à l'intérieur de l'équipement n'était pas en mesure de répondre à l'ensemble des questions. Donc c'est aussi une manière, quelque part, de susciter une forme de transversalité qui est aussi le propre un petit peu de cette évolution en termes de gouvernance, de structure, ce que peut apporter le numérique avec la possibilité de modes de gouvernance plus collaboratifs. Et donc c'est aussi de fait une manière aussi de peut-être d'interroger les structures par rapport à cet apport du numérique au sein de leur établissement en termes vraiment de gouvernance. Et une fois que cet envoi sera fait, 15 jours après, donc pour laisser aussi le temps à la structure de pouvoir s'en saisir, parce qu'on sait bien évidemment que c'est une charge supplémentaire et que les structures courent après le temps, on en est tout à fait conscient. Donc 15 jours après, de recevoir un lien qui permettra de remplir en ligne le questionnaire. Voilà le mode de passation finalement de ce questionnaire que nous avons défini.
Je voulais juste faire une aparté parce que par exemple quand on parle numérique artistique et réseaux sociaux, moi je vois une personne qui est dans la salle, je pense que la connexion elle existe, est-ce que c'est le cas systématiquement? Ce sera à discuter, à voir au niveau de tout le monde. Alors la composition de l'échantillon, les types d'établissements que l'on souhaitait représenter, donc l'objectif c'était vraiment d'avoir de l'exhaustivité pour qu'on ait vraiment une représentation optimale. Donc ne pas s'intéresser seulement à un type d'établissement qui bénéficie d'un type de soutien de la part des politiques. Donc à ce jour, on a 3500, on a les adresses, on n'a pas les réponses. On a les adresses des 35 centres dramatiques nationaux, des 3 centres dramatiques régionaux, des 71 scènes nationales, de 125 scènes conventionnées, 51 théâtres privés, 12 autres lieux. Alors je laisserai Anne décrire. Donc on a pris l'exemple du théâtre de la ville de Paris, mais pour les autres. Et on a entre guillemets un problème avec les théâtres de ville puisqu'ils sont plus de 700. Donc nous on veut bien envoyer à tout le monde. Encore faut-il qu'on réussisse à avoir toutes les adresses. Voilà. Là on est face à un petit peu un défi en termes de représentativité par rapport à ça. Donc si vous avez des suggestions et
alors, c'est vrai que la question s'est vraiment posée de la question de la représentativité d'un secteur extrêmement polymorphe en termes de type de structure. Ce qui nous semblait très important, c'était bien évidemment qu'on puisse aussi faire des connexions entre des types d'équipements, même des types de structures juridiques et l'avancée, ou du moins la pénétration dans la révolution numérique. Est-ce qu'il y a des liens? C'est une question qui nous semblait intéressante. Est-ce que les plus gros établissements, c'est-à-dire en gros ceux qui ont le plus de subventions publiques, sont-ils ceux qui sont les plus avancés, si on parle en termes de progrès, dans cette transition numérique? Est-ce que certains types de financement sont plus ou moins, laissé de côté, c'est-à-dire où vraiment on ne sent pas forcément une volonté politique d'accompagner cette transition numérique. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu couvrir le plus largement possible les types de structures qui existent, sachant qu'en fait on s'est rendu compte, et là vraiment je ne sais plus si la personne du CNT est encore là. Non, et c'est vraiment dommage, parce que là je pense qu'il y a une étude à faire sur l'incurie. Je parle bien d'incurie quand même, des pouvoirs publics à avoir des bases de données fiables. Voilà. Donc déjà, je pense que là, en termes, on parle de numérique là, depuis toute la journée, mais avant même en fait, de parler de l'usage des applications, des techniques numériques, parlons de la fiabilité des sources. C'est, moi, j'en suis restée absolument ébobie de voir cette incurie. Sachant que j'avais mené il y a 9 ans, une étude sur effectivement la question des centres de ressources. C'était la grande étude qui avait été menée par Emmanuel Vallon sur l'identification des centres de ressources, étude qui avait été financée par le ministère. Et nous nous étions posé déjà ces questions-là de recollement, hein, tout simplement, hein, des bases de données publiques. Et nous avions déjà été absolument étonnés des problèmes que ça posait. Mais alors là, j'avoue que j'ai l'impression qu'en 9 ans, les choses n'ont pas véritablement bougé. Néanmoins, des efforts partagés des uns et des autres, nous sommes effectivement arrivés à une certaine base de données relativement fiable, et encore, parce que là, pour le coup, si le numérique, d'un point de vue technologique, nous permet une mise à jour dans l'immédiat, encore faut-il quand même que quelqu'un renseigne. Voilà. Donc, c'est ça, à mon avis, le problème aujourd'hui, c'est même pas la mise à jour immédiate, c'est la question du qui renseigne. Et si on n'est que peut-être sur du collaboratif, bien, si la personne à la base est le seul acteur à être à pouvoir renseigner, quelle fiabilité peut avoir cette donnée, voilà. Parce que visiblement, le ministère, qui pourtant, par exemple, subventionne les scènes conventionnées, a une liste qui est à 50% fausse. Voilà la réalité quand même. C'est-à-dire que la base de données sur laquelle moi je me suis appuyée pour constituer ces 125 scènes conventionnées, ce n'est pas celle du ministère de la Culture qui pourtant finance entre 10 et 15% d'un budget. Voilà. Donc, bon, c'est vraiment un handicap qui moi m'interroge sur l'état quand même de ces sources. Néanmoins, donc, une liste a été construite avec cette idée d'être le plus aussi large dans le retour, hein, donc d'avoir évidemment des retours les plus nombreux possibles pour que la signification, hein, et qu'on ait une certaine réalité, hein, dans l'exploitation des données qu'on va faire. Et voilà, Christine le citait, les théâtres de ville, hein, qui sont très très nombreux. Pour le coup, là, le ministère de la Culture n'a pas de visibilité puisqu'il ne finance pas. Donc nous passons, comme d'ailleurs les théâtres privés, hein, nous sommes passés par des organismes syndicaux, hein, des organismes professionnels représentatifs, avec évidemment là aussi un biais, hein, qui est réel, puisque les théâtres de ville dont nous essayons aujourd'hui d'inscrire la représentativité seraient des théâtres de ville qui adhèrent, hein, à un syndicat. Il y en a sans doute évidemment plein d'autres qui, eux, ne sont pas listés et ne vont pas apparaître dans l'étude. Voilà. Donc ça, c'est quand même déjà un premier biais qu'on va pouvoir noter dans le commentaire scientifique de l'étude.
J'ajouterais juste que, évidemment, les théâtres nationaux font partie aussi de l'étude. On a juste oublié de la liste. Et que sur la question des autres lieux, c'est que, comme c'est Marion, en fait, on s'appuie sur soit des labels, soit une adhésion pour pouvoir obtenir des listes. Et qu'après, il y a quand même des lieux qui peuvent être hors label ou qui sont plus difficiles. Donc, on a quand même essayé de, par brainstorming, notamment par exemple au sein du TMN Labs, on avait repéré des lieux ou même des lieux très importants, mais qui échappent au label, de les lister. Alors ça, du coup, c'est en fonction des discussions qu'on a pu avoir, les lieux qu'on a repérés qui n'étaient dans aucune liste, on les a ajoutés à la main. C'est aussi voilà, il y a quelques points comme ça, mais il nous semblait absolument essentiel de les mettre. Mais en tout cas, sur certaines listes, on sera absolument exhaustif sur certains critères et labels. D'autres, on le sera moins, mais ça nous permettra, en tout cas, ce sera évidemment expliqué dans les introductions des résultats.
Sachant que dans les objectifs de traitement, il y a forcément, en tout cas, plusieurs angles de vue à envisager. Le premier, c'est effectivement par type de label, mais l'autre vision, elle est aussi d'avoir un regard par rapport à la zone géographique, c'est-à-dire dans quelle région, même si on ne parle plus de région, dans quel espace vous vous trouvez, et à partir de là, y a-t-il des espaces, des régions qui sont plus, ouvertes à des approches, à des usages, à la valorisation du numérique dans les établissements de manière générale. Est-ce qu'à ce moment-là, les établissements de spectacle vivant sont précurseurs par rapport à des choses, ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Donc là, il y a de la mise en perspective aussi par rapport à de la rupture numérique, des zones plus ou moins équipées, des zones plus ou moins rurales. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir faire parler les données avec des regards différents, de manière à pouvoir, après, que chacun puisse se situer par rapport à un environnement qui est soit par rapport à son label, soit par rapport à ses productions, soit, enfin, est-ce qu'on fait de l'artistique numérique, est-ce qu'on n'en fait pas, ou en fonction justement de l'emplacement dans lequel on est, est-ce qu'on est à côté d'une grande ville, etc. Donc de manière à pouvoir avoir des angles de vue différents, essayer de se situer, de voir comment l'on est, est-ce que à ce moment-là, ça peut être aussi des éléments. L'espoir, ce serait évidemment de pouvoir utiliser ça de manière individuelle en chaque établissement pour après pouvoir négocier, argumenter en disant, voyez, je suis en deçà de ce qui se fait dans mon corps professionnel. Je suis d'essayer d'argumenter pour essayer de négocier ce qui pourrait être des outils utiles ou pas, mais espérons utiles pour avancer dans cette transition numérique.
Une dernière chose que ça nous permettra de faire, et là je parle vraiment au nom de l'association, c'est que grâce à ce travail, ça va nous permettre aussi d'identifier des lieux qu'on ne connaît pas, parce qu'évidemment on est tout jeune, et comme on a fait le petit sondage au début, vous étiez peut-être 15% à nous connaître et tous les autres vous ne nous connaissiez pas. Nous-mêmes, voilà, les lieux on ne les connaît pas tous, et l'idée c'est que notre travail c'est de valoriser ce qui se fait. Et donc avec cette étude, on pourra aussi repérer des lieux qui ont mené des projets innovants, qui se démarquent peut-être, et on pourra aller plus loin, et là, dans le travail de l'asso, dans l'analyse, l'interview de professionnels et encore une fois, mise en valeur sur le site et partage avec les autres professionnels. Il y avait une question là-bas ?
Oui, excusez-moi. Donc, c'était juste une petite précision par rapport à votre échantillonnage. Je comprends bien en effet qu'il faut bien se reposer sur des listings et pour identifier les structures. Je prêche un petit peu pour ma paroisse. C'est qu'en fait, donc, je travaille plutôt pour un opérateur culturel de territoire, théâtre, mais en tournée, sur un milieu, en zone rurale. Et en effet, peut-être que nous ne rentrons pas dans les mêmes démarches problématiques que ces grosses structures déjà référencées, puisque nous aussi, on réfléchit au numérique, à l'espace du numérique et à la place de la création artistique en lien avec les nouvelles technologies. Et c'est vrai que du coup, pas forcément notre structure, mais le type de structure que nous représentons, j'ai pas trop l'impression qu'elle puisse du coup être représentée dans... l'un de ces types
d'échantillons. Alors, c'est vrai que se pose ce type de questions. En revanche, dans des bases de données qu'on a pu récupérer, ce que, par exemple, le CNT appelle scène publique, il y a énormément d'opérateurs. Sauf qu'il est compliqué, et c'est pour ça qu'on, je ne pense pas qu'on va pouvoir les utiliser, il est compliqué de savoir quelle est l'activité de ces opérateurs. Si ce sont des opérateurs de territoire ou des opérateurs en fait qui sont des producteurs, voire des tourneurs, c'est-à-dire qui n'ont pas de lieu. Or, nous, notre problématique, c'est quand même une question de lieu et de structure et de projet de structure. Donc, par exemple, un opérateur qui va faire tourner ses spectacles dans des salles équipées, voire pas équipées, voire polyvalentes, ne nous intéressera pas, parce qu'on va partir du projet du lieu. Et donc, c'est vrai que là-dessus, on a une mauvaise visibilité de ce type d'équipement. Voilà. En revanche, peut-être que des théâtres de ville, qui sont pourtant dans des formes, on va dire, assez légères de programmation, mais qui ont un lieu, qui gèrent un lieu, seront touchés parce qu'ils sont... ils sont identifiés via le syndicat national des scènes publiques, ou peut-être qu'on les retrouvera plus tôt dans les autres lieux qu'on a identifiés et qui est une liste qui peut être augmentée. Voilà.
Oui, je crois que l'idée de départ, elle est vraiment pour nous, en tout cas, d'essayer d'avoir le maximum de structures, quitte à ce qu'après, on soit obligé de les mettre dans autres, divers. Mais vraiment, l'ambition, c'est de plus... Enfin, on a dit exhaustivité, représentativité optimale. Si on pouvait faire un recensement, ce serait merveilleux.
Il y a juste que dans l'exhaustivité et la représentativité optimale, on est vraiment sur des théâtres. Et quand on a des scènes conventionnées musique, et quand on réfléchit notamment aussi à comment les SPAC, ce sont les SPAC, les lieux de musique actuels, et comment les festivals, qu'ils soient... Je me pose la question, soit vous gardez cet échantillonnage-là et puis d'un autre côté, vous faites plutôt une analyse de contenu, une coopération avec des réseaux qui observent un petit peu leur milieu. Je pense à ICOP avec les musiques actuelles, anciennement Copalis, ou France Festival avec les festivals, etc. Et est-ce que ça, vous l'avez prévu dans votre méthodologie d'enquête, ou vous avez une liste qui dit théâtre aussi bien dans l'esthétique que dans le lieu de représentation?
Alors, c'est théâtre en tant que lieu, c'est vraiment important pour nous. Donc, pluridisciplinaire, oui, SMAC, non. En fait, ça, c'est le champ du TMN, là. C'est-à-dire qu'à la création de l'association elle-même, on s'est posé toutes ces questions. Jusqu'à où on ouvrait le champ? Et on s'est posé la question de ce qui existait déjà. Et simplement, autant il y avait des choses menées, ou des recherches, des rencontres assez actives, par exemple, sur le secteur musique, autant il y avait des développements en termes de médiation numérique, pas inintéressants du côté des festivals. Les lieux de théâtre pluridisciplinaire ou très orienté théâtre était vraiment dans une espèce de niche inconnue. Et du coup, on a fait le choix absolument de se recentrer. Autant nos rencontres, elles sont ouvertes et des professionnels hors de ce champ très précis peuvent venir, autant du coup, sur les sujets qu'on aborde et sur cette étude, on a vraiment fait ce choix d'être sur ces lieux qualifiés théâtre. Donc les opéras, par exemple, n'en font pas partie non plus. Voilà.
J'avais deux questions qui n'ont pas de rapport l'une avec l'autre. Vous avez parlé à un moment de compétences, l'importance des compétences. Est-ce que votre questionnaire va jusqu'à questionner les équipes qui sont en place pour essayer justement de peut-être de tracer ça, s'il y a un rapport au parcours des personnes qui sont dans les structures? Est-ce que vous allez jusque-là?
Alors, on a une question qui ne sera pas... on ne pourra pas aller hyper finement... par personne en fait qui est en charge de questions numériques, mais en effet la question des compétences, c'est d'où vient le numérique dans la structure, par exemple si c'est des personnes qui sont formées, s'il y a un accompagnement à la formation au cours de la carrière, si les personnes ont un diplôme en rapport avec une activité numérique ou si ça a été plutôt une auto-formation, voilà. Ce sont des questions qu'on pose en effet, de voir d'où ça vient, comment les gens sont formés, si la question par exemple des organigrammes, est-ce qu'aujourd'hui il y a des postes vraiment dédiés qui apparaissent clairement dans l'organigramme, ou est-ce qu'on est plus et on l'est déjà dans plein d'endroits où dans la fiche de poste, il y a des questions numériques qui sont intégrées, les fiches de poste de com, de RP, à plein d'égards. Mais par contre, il y a des endroits qui vraiment créent un poste dévolu à cette question. Donc tout ça, on va tenter d'identifier. Oui, tout à fait, ça fait partie des questions.
Et la deuxième question, c'était par rapport à numérique et artistique. Ouais. C'était de savoir si vous recensez aussi les dispositifs d'aide qui peuvent exister, alors je pense surtout au niveau régional, ça existe dans certaines régions.
J'ai pas entendu le nom.
Les dispositifs d'aide publique, d'aide à la création qui peuvent exister
spécifiquement. Alors, nous, donc quand on parle de numérique artistique, alors donc on est en effet très limité sur le questionnaire parce que l'objet du TMN Lab, c'est la médiation, la com et pas l'artistique. Encore une fois, dans le secteur théâtral, l'artistique et le numérique, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Nous, on a voulu exclure. Par contre, pour corréler, on a posé des questions sur si on a accueilli des spectacles qui ont reçu DICREAM, si on a déposé des dossiers pour DICREAM. C'est la seule... qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait que DICREAM dont on a parlé. Et dans le cas, oui, dans le cadre de la prod, si on a produit des dispositifs numériques. L'autre aide, c'était quoi, ce que je n'ai pas entendu? Moi, je ne suis pas hyper calée dans les aides liées à la création numérique.
Alors, je pensais à la SCAN pour Rhône-Alpes, par exemple. Alors, je crois qu'il y a une région Aquitaine aussi. Il y a des choses qui existent.
Parce qu'après, il y a des aides plus locales qu'on voit, du coup, forcément.
Mais ça peut être, quand même un facteur important.
On va ajouter une question, du coup, parce que c'est vrai qu'on est resté sur ce dispositif national et on n'a pas pris en compte les dispositifs plus locaux, donc on va ajouter ça. Parce qu'en effet, en tout cas, c'est intéressant pour nous. Il faudra voir comment... Bon, mais très bien, ça nous permet de faire évoluer cette rubrique, notamment. Il n'y a pas d'autres questions, on passe à la slide suivante s'il y en a. Ouais.
Donc la fin, c'était juste pour vous présenter notre objectif en termes de planning. Donc aujourd'hui, on vous présente notre projet, enfin le projet tel qu'il est déjà bien avancé, sachant que l'enquête vous sera envoyée par email avec le 4 février. Commencera, parce qu'on ne fera peut-être pas des envois tout le premier jour, parce qu'on a peur d'être spammé, etc. Enfin, d'être considéré comme un spammeur, en tout cas. Et ensuite, on vous transmettra le lien vers une enquête sur Internet à partir de fin février. Alors, vraiment, l'idée de ce délai entre le jour, quand vous recevrez l'enquête en PDF et le jour où vous aurez la possibilité de remplir l'enquête sur Internet, c'est tout bête, c'est que les moyens techniques, il y a les vacances si on veut, mais il y a aussi les moyens techniques, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé l'enquête, on ne peut pas s'arrêter pour aller perdre 2 heures pour aller poser les questions et revenir. Vous seriez obligé de tout re-remplir au début et je pense que vous seriez très en colère contre nous. Donc il vaut mieux que vous ayez tout déjà plus ou moins listé pour voir l'étendue des questions de manière à pouvoir essayer d'y répondre rapidement en une fois et comme ça c'est réglé. Il y aura quelques relances. Par contre, plus vite on aura l'ensemble des réponses et plus vite on pourra lancer les analyses qui risquent d'être quand même un petit peu longues. Sachant que notre objectif, c'est de pouvoir présenter les résultats, enfin en tout cas de faire un document de récapitulatif des principaux éléments pour juillet 2016. Et bien sûr, l'objectif, c'est que tout soit à votre disposition en tant que participant, bien sûr, en tant que communauté. Et puis pour pouvoir rebondir et aller plus loin et exploiter ça.